Attention, attention, le podcast des petites frousses y contient des propos qui ne conviennent pas à tous. On va faire parfois des références à de la violence, des termes vulgaires et des sujets qui peuvent être perturbants pour certains. C'est à votre discrétion.
Bienvenue au podcast Les Petites Frousses où on parle de phénomènes inexpliqués et de meurtres irrésolus. Ici, il y a Joannie, Félix-Antoine et Catherine.
Bonjour, bonjour tout le monde.
Yo.
Aujourd'hui, je vais vous parler d'un cas de mort suspecte vieux de 30 ans. Les circonstances de la mort de la victime sont questionnables. Mm-hmm. Et les théories sont assez troublantes. Donc avant de commencer, je vais citer mes sources. San Diego Reader, San Diego Union Tribune, le LA Times, Medium, etc. Petite mise en garde, il va y avoir des mentions d'agressions sexuelles sur des mineurs, de pédophilie et de suicide. En fin d'après-midi, le 15 avril 1994, à San Diego, un surfeur de 20 ans nommé David Correa a remarqué une demi-douzaine de mouettes picotées sur quelque chose qui flottait à travers un amont d'algues. Ça a piqué la curiosité de David, alors il a alerté un des membres de son groupe, William Dostal, qui lui était à proximité de l'objet en question. L'enfant était plus près que David. William s'est approché, les mouettes se sont dispersées et il a vu qu'il s'agissait du corps sans vie d'une femme. Un appel a été fait aux sauveteurs de la plage à 15h18 et le corps a été récupéré vers 16h grâce à un navire de sauvetage. Les sauveteurs ont vu que la femme était nue et clairement morte. Son visage était dans l'eau, dans le fond, le visage vers le sol. Puis quand ils l'ont retourné, ses yeux étaient ouverts. Mmh. Malgré le fait qu'elle était complètement dénudée, elle portait des bijoux, des bagues et des bracelets. Évidemment, la femme n'avait aucune pièce d'identité sur elle. Les seules informations qu'ils avaient étaient qu'elle avait de longs cheveux bruns, un tatouage de papillon sur son épaule droite et qu'elle semblait être dans la vingtaine. Aucune cause de la mort n'a été déterminée à ce moment-là. Puisque la femme avait des blessures assez importantes, un médecin légiste, le docteur Robert Engel, a pris l'affaire en charge. Le docteur Robert Engel a examiné le corps et a mentionné dans son rapport que le corps présentait de grandes plaies avec des tissus manquants. Selon les estimations de Dr. Engel, la femme n'était pas restée dans l'eau bien longtemps. L'autopsie formelle s'est déroulée le samedi 16 avril 1994 par le médecin légiste Brian Blackburn. Les blessures de la Jando étaient assez importantes. Je vais vous les lister. Son visage était couvert d'ecchymoses, d'éraflures et de contusions. Son cou était cassé et, je cite, « comme si elle avait eu un accident de voiture ». Elle avait des côtes cassées. Son bassin avait été endommagé parce qu'il semblait avoir été une force brutale. Sa jambe droite a été arrachée à la mi-cuisse. Oh. Tout ce qui restait de ses fesses, de certaines parties de ses bras et de la partie de sa jambe droite était déchiqueté, autant les muscles que les os. La moitié de son tatouage était absent parce qu'un gros morceau de peau avait été arraché. Elle présentait des signes d'hémorragie interne et les preuves démontraient qu'elle s'était noyée. Du sable avait été retrouvé dans sa bouche, sa gorge, ses voies nasales, ses poumons et dans son estomac, comme si elle avait aspiré pendant qu'elle était au fond de l'eau. Là.
OK, fait qu'elle serait la cause de mort, c'est noyade.
Oui.
OK. Fait que là, on ne sait pas si tout ça s'est arrivé un peu avant ou après.
Tout ça est arrivé avant qu'elle meure.
Ah! Déchiqueté avant qu'elle meure?
Bien, c'est sûr qu'il y a eu probablement des animaux marins qui ont goûté après, là. Mais les blessures, mettons, les côtes cassées, le cou cassé, les contusions, les éraflures, la jambe arrachée à mes cuisses, tout ça est arrivé avant sa mort.
Mm-hmm.
Okay. Fait que c'est quand même assez terrible, là. C'est brutal.
Extrêmement.
Comme mort. Vers 22h, le soir même de l'autopsie, le 16 avril, les nouvelles locales ont diffusé l'histoire d'une femme non identifiée retrouvée morte à Ocean Beach. Une femme nommée Denise Knox a visionné ce reportage et a téléphoné à la police après avoir entendu les brèves descriptions de la Jane Doe, soit le tatouage de papillon et les cheveux bruns. Denise était convaincue que la femme décrite à la télévision était l'une de ses employées qui s'était absentée du travail sans préavis le vendredi 15 avril et le samedi 16 avril, fait que le jour précédent puis le jour même.
Makes sense.
Denise a été transférée au bureau du médecin légiste et a donné des détails assez précis sur son employée, comme le fait qu'elle se rasait ni les jambes ni les aisselles. Denise a été invitée à se rendre à la morgue et elle s'est rendue avec le gérant de son magasin. Sur place, on lui a demandé d'identifier le corps de la victime. Denise voulait vraiment pas voir la dépouille, ce qui doit être quand même être une vision assez troublante. Le médecin légiste a pris un polaroid du visage de la femme et c'est comme ça qu'elles ont pu confirmer que le corps retrouvé était celui de son employé, Michel Van Hemster, âgé de 25 ans.
Oh mon Dieu! On dirait que je me demande pourquoi c'est pas les parents qui sont...
Ils habitaient pas dans la même ville, fait que je pense que pour le délai, c'était mieux de le confirmer tout de suite. Peut-être qu'il y a eu une reconfirmation avec ses parents par après, par exemple. Et je vais vous parler un peu de Michel. Michelle Van Emster est née le 2 août 1968. Elle a grandi à San Carlos, en Californie. Ses parents l'ont élevée dans un foyer catholique pratiquant. Ils étaient assez stricts dans leurs coutumes et tout. Michelle avait 4 sœurs, Kirsten, pas Kristen, mais Kirsten, Teresa, Marie et Andrea. Michelle était impliquée dans l'Église durant sa jeunesse. Elle a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1986 d'une école catholique privée pour filles. Michelle s'est ensuite inscrite au Collège Sainte-Mary à Moraga, en Californie. Durant cette période, Michelle s'est rebellée contre ses parents et a commencé à avoir des fréquentations un peu douteuses. Elle s'est mise à consommer beaucoup d'alcool et de la drogue comme de la marijuana et de la coke. Michelle a abandonné ses études après 2 ans pour s'inscrire dans une école d'esthétique. Sa famille était optimiste et se disait que ce changement aiderait Michelle avec ses problèmes de consommation, mais elle a continué de boire. Peu de temps après le début de ses cours à l'école d'esthétique, Michelle a su qu'elle avait la leucémie.
Hé, mon Dieu!
Michelle a subi des traitements de radiation et après 1 an, elle est en rémission. Elle a ensuite déménagé vers le sud de San Diego en 1992. Michelle adorait la région et la liberté qu'elle lui offrait. Elle n'avait pas de voiture et beaucoup la décrivent comme une femme qui était en marge de la société, mais je pense que c'est un peu intense de dire que c'était une femme en marge de la société, là. C'est plus que ce qu'on peut qualifier de bohème, puis
ouais,
elle avait un esprit libre, tu sais. C'est plutôt ça.
Mais peut-être qu'en 1992, c'était moins fréquent que ça l'est aujourd'hui, là.
Ouais, c'est sûr. Ça, c'est vrai. Michelle avait un immense intérêt pour la musique et les arts. Michelle a même écrit dans l'un de ses formulaires d'emploi qu'elle aimait beaucoup l'art, fait que ça vous donne une idée à quel point c'était dans ses grands intérêts, là. Michelle changeait souvent de logement dans l'espoir de se rapprocher tranquillement pas vite de la plage, puis elle a réussi. Malgré le fait que son appartement surplombait la baie de San Diego comme elle le souhaitait, elle habitait dans un quartier miteux, reconnu pour le trafic de drogue. Le coin était surnommé la zone de guerre en raison de la violence qu'il y avait.
Oh my God!
Ça devait brasser.
C'est ça. Michelle changeait aussi souvent d'emploi et travaillait seulement pour subvenir à ses besoins de base et pour se permettre de voir ses groupes préférés en concert. En 1994, elle travaillait dans une papeterie et elle économisait de l'argent pour retourner à San Carlos où elle avait grandi. Fait que là, je vais vous parler un peu de la séquence d'événements jusqu'à son décès. Fait que le 14 avril 1994, Michelle et sa colocataire, Coco Campbell...
Coco Campbell?
Coco Campbell.
J'adore.
...avait l'intention d'assister à un concert de Pink Floyd au Jack Murphy Stadium à San Diego.
Yeah!
Il s'agissait de la dernière tournée du groupe... La tournée Division Bell. Puis info bonus, j'ai trouvé ça en regardant un peu. Là. Cette tournée a été produite par un Canadien nommé Michael Cole.
Ben oh Michael.
Écoute, cette tournée est considérée comme l'une des plus mémorables de l'histoire du rock. Fait que je comprends, il était vraiment excité d'aller voir Pink Floyd en concert. Tu sais, une tournée finale avec un groupe emblématique, c'est pour rien. Puis pour une raison qui n'est pas trop claire, ils n'ont pas pu rentrer au Jack Murphy Stadium. Une version raconte qu'ils n'avaient pas les bons billets, puis l'autre disait qu'elle avait tout simplement pas de billets pantoute, puis qu'ils pensaient pouvoir s'en procurer grâce à un revendeur à la porte.
OK, ouais.
Dans le temps qu'il y avait des scalpers là, aux portes, maintenant, ça se passe en ligne. Fait que l'histoire de Michelle aurait été très différente si elle avait vu Pink Floyd ce soir-là.
Ah.
Donc, les filles sont reparties bredouilles. Coco a raconté que par la suite, Michelle était un peu de mauvaise humeur après cette déception. Elle était pas fâchée, mais insatisfaite, mettons.
Je la comprends, là.
Sur le chemin du retour, Michelle a demandé à Coco de la déposer près de la plage parce qu'elle avait pas envie de retourner chez elle pour ruminer. Coco s'est pas questionnée par rapport à cette décision de la part de son amie et colocataire. La plage était tout près de la maison qu'elle louait et c'était pas rare que Michelle se rendait à la plage le soir pour marcher. Elle allait y nager, faire du surf quasiment tous les jours. Là. La plage était vraiment son repère.
C'était un beach babe, dans le fond, Michelle.
Genre. C'est la dernière fois que quiconque a vu Michelle Van Emster en vie. Lorsqu'elle a été déposée à la plage, vers 20h, toujours le 14 avril 1994, Michelle portait un trench coat vert et elle avait son sac à main avec elle. Le vendredi 15 avril 1994, dans la région de Sunset Cliffs, à San Diego, 2 surfeurs ont remarqué quelque chose échoué à proximité. À la suite d'une inspection plus approfondie, ils ont découvert qu'il s'agissait du corps de Michelle Van Emster, âgée de 25 ans, face contre terre, sur un énorme lit d'algues marines. La boucle est faite.
Est-ce qu'elle était loin du rivage? Sûrement pas tant que ça.
Pas tant, là. C'était comme un espèce de petit coin où, justement, les algues allaient se ramasser.
OK.
Ouais. Un petit bassin, genre?
C'était pas creux, là.
OK.
Mais c'était vraiment une place où les algues se ramassaient. Puis une petite parenthèse par rapport à ça, justement, je voulais vous dire avant d'aller au théorique, parce qu'on est déjà rendu au théorique. L'endroit où Michelle a été retrouvée avait plusieurs surnoms dus à l'odeur d'algues pourries qui s'y retrouvaient.
Mm.
Un des surnoms populaires, c'était Garbage, ordure. Puis le jour même de la découverte du corps de Michelle, il y a un homme dans un bar qui a entendu ce qui s'était passé. Il s'est mis à surnommer l'endroit Torso, Torse, en se trouvant bien drôle. Jusqu'à temps que quelqu'un, il dit tout à fermé parce que c'était vraiment irrespectueux. Là. Il faisait vraiment référence au corps de Michelle qui avait été retrouvé là. Ouais.
Ouais.
Mais torse?
Torse.
C'est quoi le rapport?
Ben, un corps, là, tu sais.
Mais il ne manquait pas toutes les jambes.
Non, non, mais tu sais pas de comprendre la logique derrière cette
tête. C'est un beau zoo.
Ouais, c'est trop drôle. Fait qu'on va se lancer dans les théories, mais avant, j'aimerais savoir si vous avez des questions ou des théories à porter.
Il va falloir que tu nous en dises plus, j'ai l'impression, parce qu'il y a autant de possibilités qu'il y a de gens sur cette terre.
Wow!
Vite comme ça. Tu sais, elle habitait dans un quartier qui était surnommé la zone de guerre. Fait que, tu sais, une femme qui marche seule à la plage, c'est sûr qu'elle faisait souvent, mais peut-être que cette soirée-là, ça s'est mal passé.
Ouais.
Elle a peut-être voulu consommatrice de drogue quand même. Peut-être qu'elle a voulu acheter de la drogue, puis ça s'est mal passé, puis finalement, elle a été mutilée, battue, puis tirée dans l'eau.
C'est pas mal ça, vous pensez qu'elle s'est fait attaquer probablement sur la plage, quelqu'un l'a vu, un deal de drogue peut-être qui a mal viré.
Ouais, tu sais, vite comme ça, c'est ce qui me vient en tête, moi.
Mm-hmm. Okay. Ouais.
Alors, j'ai 3 théories. Je vais me lancer avec la première. La conclusion du rapport d'autopsie indique que la mort de Michel était due à une attaque par un grand requin blanc qui l'aurait amené sous l'eau jusqu'au fond marin et l'impact lui aurait cassé le cou et elle serait morte en se noyant et aussi à cause de la perte du sang à cause de sa jambe.
Mm-hmm.
Ensuite, d'autres animaux marins comme des requins bleus qui sont pas mal plus petits se seraient nourris sur son corps.
Mais ça se pourrait.
Ben ouais. Est-ce que ça y aurait enlevé son trench coat puis toutes ses vêtements?
Ben, ça peut être violent, là.
Ouais, mais... je vais élaborer là-dessus à ce moment-là.
Elle sera allée se baigner toute seule le soir. C'est pas dangereux, un peu. Bien.
Tout nu?
En se basant sur le témoignage de Coco Campbell, la colocataire de Michel, le docteur Brian Blackburn a suggéré que Michel serait tout simplement allée nager nue, puis c'est là qu'elle se serait fait attaquer par le requin. Toujours selon le docteur Blackburn, Michel serait entrée dans l'eau à minuit. Un sauveteur qui a travaillé à la plage où Michel avait été retrouvée morte l'avait aperçu nager sans haut de maillot en octobre 1993. Michel était assez loin de la plage et selon les dires du sauveteur, elle nageait plus loin que la majorité des gens nageraient normalement. Là. Ça était loin dans l'eau, là. Vous comprenez?
Mm-hmm.
Moi, j'aurais eu peur d'aller me baigner tout seul dans la mer le soir.
Ah ouais. Mais là, mon père plus du soir, là.
Ouais, mais quand même, là, c'est le soir qu'elle serait allée là, selon ouais. ton hypothèse.
Selon l'hypothèse.
Ok, oui, selon l'hypothèse.
Dans l'eau à minuit. Moi, si, admettons, j'étais sourd en gang, haha, c'est drôle, c'est le fun, mais tout seul, là, loin quand même dans l'eau, non.
Mais ça me fait penser du fait que les médecins ont dit que ça faisait pas longtemps qu'il était dans l'eau, mais pas longtemps, genre...
Avant son décès, ouais.
24 heures ou genre 15 minutes?
Ils n'ont pas spécifié. Ouais. Mais de ce que je comprends, c'est pas longtemps avant sa mort. Fait que c'est arrivé rapidement.
Ouais.
Ouais.
OK. Mm. Pour revenir à ce que le sauveteur disait, à ce moment-là, la température de l'eau était bonne, mais ça aurait pas pris longtemps avant que quelqu'un se mette à avoir froid, mettons. Tu sais, c'était pas juillet. On s'entend?
Ouais, octobre quand même.
Ouais, mais c'est à San Diego. Là, c'est pas Québec. Québec, ouais. On a 3 jours pour se baigner.
C'est ça.
Mais en gros, ce que le sauveteur aide à éclairer, c'est le fait que nager nu, no stress. Nager quand il fait frette, no stress.
Ouais.
Est-ce qu'elle a déjà fait le soir? Il n'y avait sûrement pas grand monde. Fait que ça, on ne peut pas vraiment dire que ça y est arrivé ou pas. Mais moi aussi, là, aller nager le soir, je peux pas nager. J'ai peur. Tu sais, il y a une peur de l'eau, là, c'est une phobie. Là. Avoir peur de qu'est-ce qu'il y a en dessous de l'eau parce que tu ne vois pas. Là.
Mm-hmm.
Puis que les choses, des fois, elles peuvent arriver, puis tu les sens pas, tu les vois pas. Mais ça m'empêcherait. Moi, dans un lac, j'ai la frousse au cul.
Dans un lac, moi, j'aime ça.
Arc.
Moi, non, ça m'écœure un peu. Là, non, mais tu sais, je passe par-dessus. Sauf que se baigner la nuit, c'est quand même dans des eaux sauvages.
Ben, c'est ça, là.
On dirait que c'est pire. Hein?
Oui. J'aurais moins peur de me baigner dans un lac la nuit. J'aurais pas peur.
T'es allé te baigner le soir, toi, Atlantic City.
Ouais, mais
un grand puce de mer.
C'est ça que je dis. J'étais sous puis on était en gang.
OK, moi, j'avoue.
Je suis pas allé nager, là. J'avais de l'eau jusqu'à taille, là. J'avais pas de l'eau à toucher dans le fond tout seul, là.
Ouais, non, loin. Ça, je suis pas game. Fait qu'on va fermer la parenthèse oui, de natation. Et je vais continuer avec Michel. Le sauveteur a aussi dit qu'elle était pas seule, mais qu'il y avait un homme qui, selon sa coupe de cheveux, avait l'air de travailler dans l'armée.
Là, le sauveteur, il nous parle de la fois en octobre.
Oui, toujours de la fois en octobre, parce que là, on a beaucoup déraillé là, à ce moment-là. Mais en regardant ça rapidement, ça fait du sens, la théorie du requin.
Oui.
Mais il y a beaucoup de failles. Puis on va énumérer ces failles. Si Coco a déposé Michel à 20 heures et qu'elle est allée nager vers minuit, qu'est-ce qu'elle a fait pendant 4 heures? Pourquoi Michel aurait-elle décidé d'aller nager nu quand il faisait 13 degrés Celsius à 7 heures et dans une eau qui était environ à 15 degrés Celsius? Puis en plus, la marée était haute ce soir-là avec des vagues qui avaient atteint les 3 pieds d'hauteur.
Elle devait... Moi, je pense que si elle a vraiment fait ça, elle était peut-être sur une petite pilule là.
15 degrés Celsius, ça équivaut à 60 Fahrenheit parce que, tu sais, le monde, ils vont plus comprendre. Nous, on parle en Fahrenheit quand on parle de se baigner. Dans un spa, dans une piscine, on dit toujours en Fahrenheit.
T'as bien raison.
Fait que c'est 60 Fahrenheit.
C'est vrai, 60?
C'est froid, là. C'est très froid.
C'est comme dans le Maine.
C'est comme... non, moi, je suis un peu frisqué. Non, je suis pas sûr que je me baignerais.
Ah, moi, je me baigne. À 60? Je me baigne à 40, baby.
Ouais, mais pas longtemps, là.
Non, non, une petite dépine
de cire. Ouais, mais tu sais, il faisait combien de degrés dehors, tu dis?
Mais 60, c'est quand même chaud. C'est un lac.
Vous êtes 13 degrés dehors, là.
Ben, t'as pas envie de moi, à 13 pieds, degrés, j'irais pas me baigner dans une place où il fait...
Ouais.
Non.
Je te dirais que c'est plus l'extérieur qui est frais que la température de l'eau. C'est pas si pire.
Mais là, en ce moment, il faut dire qu'il y a beaucoup la mode des gens qui se baignent dans l'eau frette.
Oui.
Cold plunge. Glaçons. Ouais, c'est ça. À ce moment-là, 1994, était-ce un tang?
Je penserais pas.
Peut-être une petite communauté là, qui existait à ce moment-là. Mais je pense pas que Michel... Ça n'avait pas de sens. Là.
Mais mon histoire du fait qu'elle aurait peut-être pris de la drogue avant...
Mais ça fait partie des petites théories que je vais vous mentionner à la fin. Là.
Mais il serait capable de voir dans son sang si elle avait consommé ou pas.
Ils n'ont pas fait rien de ça.
Ah!
Ça a été requin. Mais je continue. Si elle est allée nager nue, sont où ses vêtements? Seulement son manteau et le sac à main de Michel ont été retrouvés à environ 800 mètres de son corps. La sacoche contenait encore tout ce qu'elle avait auparavant. Là. Fait que le 27 pièces en argent, du maquillage, un paquet de cigarettes, ses clés, son permis de conduire, un petit sac banane, un talon de paix. Il n'y avait rien qui avait été volé malgré le fait que la sacoche se trouvait dans la zone de guerre. C'est quand même impressionnant là,
mm-hmm.
que personne n'a volé sa sacoche. Puis le sac à main était à vue dans un coin très fréquenté de la plage. Puis le reste de ses vêtements n'ont jamais été retrouvés.
OK.
Ce qui vient également ébranler la théorie du docteur Blackburn, c'est qu'il n'avait jamais vu ou fait d'autopsie sur une personne ayant été victime d'une attaque de requin, puis il l'a admis lui-même. Le docteur Blackburn avait tout de même contacté des experts à l'Institut océanographique de Scripps, qui, selon leur site Internet, serait l'un des centres les plus importants pour la recherche et l'éducation en sciences de la Terre au niveau mondial. Fait que c'est pas du petit peuple. Puis les experts à l'Institut ont approuvé les conclusions de docteur Blackburn, même s'il n'avait jamais vu le corps de Michel. Dans le fond, le docteur Blackburn, il s'est juste rendu là-bas, il a expliqué ce qui s'est passé, puis après l'autopsie et tout, il est reparti, il a fait « Ah, ben ça fait du sens ». Voilà. Le docteur Blackburn avait aussi ajouté un autre médecin légiste comme témoin de l'autopsie nommé Harry Bonnell. C'est une pratique courante de mettre un témoin sur une autopsie, sauf que dans ce cas-ci, c'était faux. Docteur Harry Bonnell, il n'a jamais été là, il n'a jamais rien vu de ça. Là. Il a dit au journaliste Dave Good au journal San Diego Reader « Je n'ai pas été témoin de cette autopsie. Je suis sûr que je me souviendrai d'une attaque de requin comme celle-ci. C'était sa coutume de répertorier des témoins au cas où il y aurait des questions. Il se protégeait. C'est une politique dans les cas des homicides. » Donc c'est une politique dans les cas d'homicide. C'est pas un homicide, selon lui, mais il met quand même un témoin. Fait que, étrange. Puis s'il avait vu le corps de Michel, le docteur Bonnell aurait dit au docteur Blackburn qu'une hémorragie interne n'est pas quelque chose de courant lors d'une attaque de requin, mais quelque chose qui arriverait lors d'une attaque par un animal terrestre. Il y en a qui pensent que ça aurait pu arriver quand le requin l'a ramené au fond de l'eau et que ça, avec l'impact, avec le sable au fond marin, ça aurait causé une hémorragie. Mais les requins n'ont pas tendance à faire ça. Ils ont plus tendance à mordier, une petite bouchée, reculer. On dit une petite bouchée, reculer. J'ai vu une vidéo d'un phoque qui s'est attaqué par un requin, puis c'était pas mal ça.
Wow!
Ouais.
Oh, quand même.
Plusieurs experts en requins et des spécialistes du comportement des requins en général ont refuté les conclusions de l'autopsie. Ils ont déclaré qu'il n'y avait aucune preuve qu'un grand requin blanc avait été dans un rayon de 80 km de la plage. Parce que depuis les années 1950, les scientifiques suivent les requins en utilisant diverses méthodes. Par exemple, dans les années 70 et 80, c'est avec l'utilisation de la télémétrie acoustique, ce qui a permis aux chercheurs de suivre les requins à l'aide de récepteurs acoustiques sous-marins. Dans les années 1990 à 2000, le marquage par satellite est devenu de plus en plus courant, offrant aux chercheurs la possibilité de suivre les requins sur des longues distances et dans des zones reculées de l'océan. C'est impressionnant quand même.
Oui, mais c'est vrai que... Parce qu'en même temps, je comprends que là, cette nouvelle-là, ça a dû causer un peu d'effervescence parce que là, les gens ne devaient plus avoir envie d'aller se baigner.
Oh,
parce
clairement.
Que, tu sais, ça s'évite, là. On a vu tel requin, tel type d'animal marin sur les côtes de telle plage. Puis là, tu sais, ça fait boule de neige, ça nuit au tourisme puis tout ça. Fait que c'est sûr qu'il y a des chercheurs qui ont dû aller dire « wow, wow, wow ».
Ouais.
Genre « wait a minute, je vais vérifier ».
C'est clair. Puis en plus, c'est pas comme on pense, c'est très rare. Puis je vais vous en parler dans pas long, là, mais c'est vraiment rare les attaques de requins. Ça arrive pas aussi fréquemment qu'on pense.
Est-ce que c'est vrai que faut que tu saignes pour que ça les attire en particulier? Là?
Ben, je sais même pas si c'est vrai, ça.
Ouais, mais ça, j'avais vu une vidéo, quelque chose qui parlait de ça. Puis que le sang, c'était comme pas.
C'est pas si triggering.
Non, non, non. Pas, genre, c'est pas vrai que, mettons, ils vont. Ben, mettons, à mes souvenirs, là, mettons, ils vont pas sentir l'odeur du sang, genre, à 3 km, là.
Ouais, c'était ça.
Mais il semble que j'ai vu une vidéo là-dessus qui faisait un test, genre, dans une cage, puis là, ils mettaient du sang à voir si les requins ou s'il y avait. En tout cas, quelque chose comme ça. Puis, il me semble que c'est plus vraiment la chair, là, la nourriture qui.
Ben, justement, je me dis, si t'es blessé, ta chair.
Mais je pense que c'est plus comme une truc en. Mettons une vieille bête, mettons une.
Une petite affaire pourrie.
Un bœuf qui serait mort depuis, mettons, une couple de jours, qui commencerait à sentir la vieille bœuf.
La vieille. Je sais pas, c'est un vieux bœuf décomposé dans l'océan, là.
Ben, je pense que ça l'attirerait, là, les requins. Parce que, mettons, j'ai déjà vu des vidéos qui lancent des affaires. Puis là...
Ah, des morceaux de viande, oui, ouais. Oui, oui, ils arrivent quasiment à la course. Ben, pas à la course parce qu'ils nagent, là. Mais ouais.
C'est dommage si j'avais. Terminer mon bac en bio, j'aurais sûrement une réponse.
Calisse!
Je vais regarder sur
OK, mais je vais continuer avec les requins. Fait que pour venir aux satellites et tout, ben, y a des balises satellites qui sont fixées à la nageoire dorsale des requins et qui transmettent des données de localisation via satellite aux chercheurs, permettant un suivi en temps réel. Puis aujourd'hui, il existe une application mobile que tu offres à tous, tout le monde peut la télécharger, puis tu peux traquer les requins. Tu peux choisir un requin puis traquer à travers le monde. C'est vraiment nice. Je sais pas s'il faut payer, mais ça a l'air nice. Fait que je vais laisser un lien si jamais vous voulez télécharger l'application. Parmi les experts qui ont contesté la théorie, il y avait Ralph Collier, auteur et fondateur du comité de recherche sur les requins. Il s'est montré sceptique vis-à-vis le scénario de l'attaque de requins dès qu'il a examiné le fémur de Michel. Ralph Collier y avait initialement dit au journal San Diego Union Tribune que, je cite, « Sur la base des rapports préliminaires, les diagnostics d'attaque de requins étaient probablement valides, mais il a changé d'idée quand il a vraiment vu l'os, je vous l'explique. » Ralph Collier a dit au journal de San Diego Reader en 2013.
L'une des choses qui m'a frappé était l'état du membre inférieur. Lorsqu'un grand requin blanc arrache une partie d'un membre, la fracture est nette, presque comme si vous l'aviez coupé avec une scie circulaire. Ce qui restait du fémur de Michel était tout sauf ça. Ça ressemblait à ce qui se passe lorsque vous prenez un morceau de bambou et que vous le taillez en pointe avec un couteau.
Hein?
L'os était pointu.
Ah!
Ce type de blessure est causé lorsque l'os est tordu sous une grande force. J'ai examiné près de 100 photos de cas d'attaque de requins au fil des ans et je n'ai jamais vu d'os qui se termine en pointe. Du sable a été retrouvé dans sa bouche, dans sa gorge, dans ses voies nasales, ses poumons et dans son estomac. Pour que tout cela se soit produit conformément aux conclusions de l'autopsie, le requin aurait dû attaquer Michel et la pousser fort contre les fonds de l'océan pour qu'elle ingère tout ce sable. Les grands requins blancs ne font pas ça.
Quand même! Pertinent, ce petit témoignage.
Oui, oui. Puis Ralph a expliqué que Michel devait être en vie pour que du sable se retrouve dans ses poumons. Si elle avait perdu sa jambe à cause d'un requin, ce serait impossible qu'elle se soit rendue en vie dans les fonds marins. Elle aurait perdu trop de sang. Elle serait morte avant de se rendre au fond. Et là, Ralph Collier ajoute...
Les dommages auraient sectionné son artère fémorale et elle aurait rapidement saigné à mort. Mais pour qu'elle ait du sable dans son estomac, elle aurait dû prendre une grande inspiration en entrant en contact avec le sable.
Ah, ouais. Ça change la donne, là.
Oui, puis c'est pas tout, là. Ils l'ont refuté en tabarnak, cette théorie-là. Un autre détail très important, c'est qu'une personne ayant été mordue par un grand requin blanc présente des empreintes de dents distinctes qui, elles, sont spécifiques et facilement identifiables. Richard Rosenblatt, président de l'Institut Scripps, a manifesté son désaccord avec les conclusions de Blackburn après avoir reçu les mesures des blessures de Michel. Il a déclaré...
Aucune des marques sur le corps de Michel n'a été causée par un grand requin blanc. Si elle avait été mordue par un grand requin blanc, ils auraient probablement également trouvé une dent de grand requin blanc cassée dans son corps. Si un requin avait pris sa jambe, ça ne pourrait être que par un grand requin blanc.
Mais ça peut pas être un autre type de requin, genre.
Non, parce qu'ils sont pas assez gros.
OK.
Ouais, les grands requins blancs, là, de ce que j'ai vu, ça peut mesurer 20 pieds.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme, là. Puis... j'ai vu des affaires, j'ai fait des recherches chez requins. Ça me passionnait beaucoup, les requins, quand j'étais jeune, en plus. Mais ils ont déjà trouvé des choses assez impressionnantes dans les estomacs des requins. Genre une tête de vache, des chevreuils au complet.
Oui, oui. C'est, des...
c'est fou, là.
Okay. Des grosses bêtes.
C'est vraiment fou, mais c'est ça. Ça prend ça, sinon c'est trop petit. Puis quelque chose que j'ai lu de passionnant sur les grands requins blancs pendant les petites recherches, en lien avec leurs dents, c'est que les dents des requins sont conçues pour se détacher facilement. Lorsqu'une dent est perdue pendant une morsure, une nouvelle dent pousse pour la remplacer. Wow. Aussi, les dents sont rétractables comme des griffes de chat.
Non!
Selon le Musée d'histoire naturelle de la Floride, je cite, « Les requins ont un approvisionnement inépuisable de dents avec une dentition qui se régénère constamment tout au long de leur vie. Chez certains requins, un nouvel ensemble de dents se développe toutes les deux semaines. Mais oui, c'est rétractable comme des griffes de chat, mais c'est pas que ça rentre et ça sort, c'est que quand ils ferment leur bouche, ça revient par en dedans.
C'est génial. Ils n'ont pas besoin d'aller chez le dentiste. Puis,
c'est nice, hein?
J'ai trouvé aussi là, ce qu'on disait par rapport au sang. Là. Dans le fond, ça dit que les requins ont des narines extrêmement sensibles et peuvent détecter des odeurs de très loin, mais la distance à laquelle ils peuvent détecter ces odeurs dépend de plusieurs facteurs. Les particules des différentes odeurs se dispersent différemment dans l'eau. Cependant, en fonction de ce qu'il s'agit, ils sont capables de détecter des éléments dans l'eau à une concentration comprise entre une goutte pour 25 millions et une goutte pour 10 milliards. Pour donner un autre ordre d'idée, cela représente environ une goutte d'eau dans une piscine olympique. Hein? Les requins peuvent donc détecter une seule goutte de sang dans un rayon d'environ 400 mètres.
Donc, ça les attire?
Ça les attire.
Ah, ouais.
Mais ça peut être très long avant que le requin, mettons... Ça dépend des courants marins, ça dépend de plusieurs facteurs.
Ah, oh, c'est très intéressant.
Mais ça veut dire qu'ils sont extra sensibles. Fait que l'affaire du sang, c'est pas fou, là.
Je comprends que des gens dédient leur carrière, leur vie, à en savoir plus sur les requins. Pour revenir à Michelle, elle présentait que des morsures de requin bleu, mais aucune trace de morsure de requin blanc, ni de dents incrustées dans sa peau, comme j'ai dit tantôt. Richard Rosenblatt a dit que le seul requin en mer suffisamment gros pour infliger de tels dommages à un os fémoral humain est le grand requin blanc. Ajoutons à ça le fait que les attaques de requins sont rares, avec seulement 6 attaques fatales répertoriées le long de la côte californienne entre 1926 et 1994. Une seule de ces attaques s'était produite à San Diego et c'était celle de Robert Pomperan en 1959. Un ami de Robert l'avait vu se faire tirer sous l'eau par un requin et son corps n'a jamais été retrouvé.
Oh là là!
J'ai entendu beaucoup de choses qui venaient en conflit aussi avec les périodes durant lesquelles les requins se nourrissent. Certaines sources disent que les requins se nourrissent seulement au crépuscule et à l'aube. D'autres disent que c'est tout au long de la journée ou de la nuit. Genre, tant qu'ils détectent une proie, ils vont attaquer, mais d'autres disent que non. Fait. Richard Rosenblatt, lui, son opinion là-dessus, c'est que... Je vais te laisser lire encore une fois, Félix.
Ce n'est pas le comportement typique du grand requin blanc de chasser la nuit. Les grands requins blancs ont des rétines activées par la lumière. Ils remontent du fond et visent la silhouette d'un phoque à la lumière du jour. Dans la vraie vie, les requins ne se comportent tout simplement pas de la même manière que beaucoup d'entre nous les avons vus dans les films jazz. Ils sont curieux en rencontrant des humains, mais pas agressifs.
Mais c'est quand même vrai ça, par exemple. Si je vois beaucoup de vidéos des fois passer, puis c'est comme des gens qui nagent avec des requins, puis les requins viennent vers eux, puis ils mettent leurs mains pour les rediriger, puis ils s'en foutent après.
Oui, puis il me semble que t'sais, les gens qui font du surf, justement, des fois, quand ils se font attaquer, c'est parce que je pense que le requin, il distingue peut-être pas toujours la différence entre un phoque, justement, qui nage, puis une planche de surf.
Ah, wow!
Souvent, ils vont croquer dans la planche de surf, comme, puis...
Oui!
Une fois que le surfeur va être dans l'eau, il va comme faire... Ah, ben, genre, c'est... il va pas... C'est pas un phoque, fait qu'il va pas le manger.
Ah.
Il va y goûter, puis... Ah, non.
Trop sec, un humain.
Mais il semble que j'ai déjà vu ça.
Ah! Ça se peut. En conclusion, Ralph Collier a dit « Il y a trop de choses dans ce cas qui ne sont pas cohérentes avec le comportement du requin blanc. » En réponse à ça, le docteur Brian Blackburn a dit « C'était pas un requin, c'était quoi? » Malgré leur expertise, les gens ont contesté la théorie de l'attaque d'un requin blanc et n'ont pas pu offrir une autre théorie. Ralph Collier a mentionné que l'hélice d'un bateau aurait pu causer des blessures similaires, mais à ce stade, la cause du décès était déjà officielle.
OK.
Fait que ça, c'est la première théorie. C'est vrai qu'une hélice de bateau, ça pourrait faire du sens, là?
On dirait que le bateau, j'ai de la misère à croire.
Moi, tout, là. Non, pas de bateau.
Faudrait qu'elle soit très loin.
C'est
là.
Ça, faudrait qu'elle soit vraiment loin. Faudrait qu'il soit gros en tas, bateau aussi.
Oui, parce que les petits bateaux, je pense pas que ça se déplace dans la nuit. Là.
Ben, je pense pas que ça l'aurait massacré autant que ça.
Oui.
Ouais.
Ben, peut-être.
Sur tout le corps, là, je sais pas. Là. En tout cas, c'est ça. Faut tout le temps savoir c'est quel genre de bateau, quel type. Un bateau, genre, d'eau peu profonde, mais avec un gros moteur, d'habitude, ça. Ça va pas vraiment ensemble.
Oui, je sais pas, je connais pas beaucoup les bateaux. Tu as un petit bateau là, avec un petit moteur en arrière, ouais, ça reste pris, mais ça t'arrache pas une jambe.
Mais non, puis elle avait plein d'affaires, là, les côtes cassées, le bassin cassé. Pété, le cou cassé, le sable dans le fond des poumons, ça là, c'est moins hot.
Les vêtements, comme... la sacoche, ça marche pas autant que
non.
ça.
Non, celle-là, je l'aime moins.
Non, 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 je suis d'accord.
Puis mettons le requin tout court, on peut s'entendre que c'est exclu totalement.
Selon les scientifiques, moi, je vais aller croire. Parce
ouais,
que...
mais j'ai hâte de voir les autres choses que tu vas nous présenter parce que ça aurait quand même pu.
Oui, ouh. Prime abord. Moi, les premières fois que j'ai entendu parler de ce cas-là, je me suis dit, c'est sûr, c'est un requin. Là, le monde exagère. Là, puis...
Ouais.
Puis là, j'ai vraiment checké les experts. Nanana, puis je me suis dit, ah ouais, je pense que c'est clair que c'est pas un requin. Là, c'est sûr que je vais croire quelqu'un qui a voué sa vie à une espèce versus un médecin légiste qui a jamais vu une victime de requin.
Mm-hmm.
Tu sais? Prochaine théorie. Comme a si bien dit le docteur Blackburn, c'est pas un requin qui a tué Michel, qui ça peut bien être. C'est là que la théorie du meurtre entre en jeu. Puis avant de nous parler de nos deux suspects, j'aimerais mentionner des faits qui donnent du poids à la théorie d'un meurtre. Fait que premièrement, le fait qu'elle soit nue pourrait démontrer qu'elle a été victime d'une agression sexuelle. Son sac à main avait été retrouvé intact, comme si quelqu'un l'avait déposé après la découverte de son corps. Ça, je trouve, c'est très probable, là, en fait. Le sort...
Attends, j'ai pas compris, il l'avait déposé.
Ben, mettons, quelqu'un en sa sacoche, puis il le garde avec lui, puis là, après qu'elle a été retrouvée, il l'a droppé quelque part d'autre, genre.
Ou il l'a juste tué, il l'a mis dans l'eau, puis il a mis sa sacoche puis ses affaires-là pour faire croire justement qu'elle s'était peut-être noyée ou c'était un requin, là.
Ouais, moi, je suis dans avec ton histoire.
Mais je pense que ça aurait été plus intelligent de le foutre dans l'eau.
Qui va se baigner avec sa sacoche?
Non, mais peut-être aussi qu'elle a juste laissé sa sacoche sur la beach puis elle s'est faite agresser par quelqu'un sur la beach.
Oui.
Moi, c'est plus de même que je pensais.
Elle était pleine de sa sacoche. Oui, OK. Elle avait tout son stock dedans. Mais je me dis, Colin, n'importe qui va ouvrir dans sa coche, que ce soit pour prendre la pièce d'identité pour la ramener, mais tant que quelqu'un qui est bienfaisant.
Ouais, mais c'est mais ça là... que je dis. C'est justement, il y a quelqu'un qui l'a tué, il a laissé ses affaires-là pour peut-être. Par à croire justement que c'était dans l'eau que ça s'est passé.
Ou ça s'est pas passé à la plage. Il est allé avec quelqu'un, peut-être recroisé quelqu'un d'autre qu'elle connaissait, ils sont allés quelque part, la personne l'a tué. Puis là, pouf, il a droppé son corps où ce qu'elle avait été. Puis après ça, il a droppé ses affaires un peu partout. Troisième point, le sable qui était trouvé dans sa gorge, son nez, son estomac aurait pu se rendre là si elle avait été noyée juste sur le bord de l'eau. C'est drette où l'eau rencontre la plage. Si tu mets la tête de quelqu'un sous l'eau, elle peut autant avoir avalé tout ça. Là. Mm-hmm. Pas besoin d'aller dans les fonds marins.
Ouais, c'est ça, je me disais moi aussi, au début.
Ouais. Fait que nos deux suspects. Avant de travailler à la papeterie de Denise, Michelle travaillait au café Rumors. Elle avait dû changer d'emploi parce qu'elle se faisait harceler. L'homme en question n'arrêtait pas de venir la voir au travail, puis Michelle avait même dû changer d'horaire. Elle avait passé du corps de soir au corps de jour, mais l'homme venait toujours la voir. Michelle n'a jamais donné le nom de l'homme en question, mais elle avait dit qu'il conduisait une moto. Quelques jours après l'annonce de la mort de Michelle, un homme est venu faire des photocopies du rapport d'autopsie de Michelle à la papeterie où elle travaillait. Denise, la gérante de la papeterie, puis la personne qui a identifié Michelle à la morgue, a dit au journal San Diego Reader, « Le type étrange qui voulait toutes ces photocopies de son autopsie, il conduisait aussi une moto. » Fait que ce serait possiblement la même personne. Parce que qui veut plusieurs photocopies d'une autopsie?
Fait que là, ça veut dire qu'il y aurait eu les copies de l'autopsie, mais comment?
Ben moi, je sais qu'aux États-Unis, c'est pas mal quasiment tout public. D'où la raison, c'est facile de faire des cas des États-Unis.
OK.
Fait que c'est ce que j'imagine. C'est pas précis dans l'article de San Diego Reader, par exemple, mais je sais, c'est sûr que c'était pas autre chose, là. Parce que Denise, elle a gardé une copie.
OK.
Puis quand le journaliste est allé chez elle, il a vu tout, elle a gardé plein d'articles de journaux là, qui parlaient de ça parce qu'elle est convaincue que c'est pas un requin non plus, là. Mm-hmm. Elle avait l'air vraiment proche de Michel, là. Puis elle avait gardé aussi la photocopie de l'autopsie. Elle a pu en garder une.
Ouais, c'est quand même très, très louche, là.
Ouais, c'est qui garde ça?
Ben, qui va les chercher, là? Peu importe, je sais pas si c'était publié dans le journal à ce moment-là.
Peut-être aussi, mais c'est je pense tellement plus que c'était public.
Tu sais, je veux dire, c'est public, mais où tu le trouves en 1994? Il n'y avait pas les Internet dans la salle d'ordi.
C'est vrai, mais je sais pas. Je sais vraiment pas.
On dirait que ça, il y a sûrement une explication, puis juste parce que je le sais pas, là, mais ça m'intrigue. Ça veut dire
je
que
comprends.
Je pense qu'il a fait des efforts pour trouver ces papiers-là. C'est ça que je trouve qui est creepy.
Oui. Puis le fait de voir les photocopies, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux faire avec les photocopies? Tu les partages à tes amis? Tu veux te faire un scrapbook avec tout ça?
Il y a une obsession.
Pourquoi tu vas, en plus, si maintenant c'est le même gars, là, tu vas en plus à la job où qu'elle travaillait juste avant de mourir.
C'est un stalker.
Ouais, c'est ça, c'est vraiment creep. Fait qu'en tout cas, ça c'est comme le premier suspect. On garde ça en tête. Deuxième suspect. Il y avait un homme qui s'appelait Edwin Decker qui côtoyait Michelle et qui disait qu'elle aimait nager et surfer nue. Malgré le fait que ses amis ont contredit cette information-là. Tu sais, elle avait un wetsuit. Là. Quand elle allait surfer, elle avait son wetsuit. Attends.
Surfer nue, je la trouvais... femme libérée. Hein.
À fond la caisse.
Mais c'est quand même bold, là, parce que...
Ça claque de l'eau quand tu tombes en bas de ton surf. C'est surtout ça, moi, que je me suis dit. Fait qu'Edwin a raconté avoir rencontré Michelle en février 1994. Il travaillait dans un bar, le Winston, juste à côté du café dont Michelle avait dû démissionner. Edwin a dit, il a raconté ça. Je te laisse lire, Alex.
Bill Winston était le propriétaire du café et il possédait également Winston's, le bar où je travaillais. Les deux bâtiments étaient connectés, donc la porte arrière de Winston était également la porte arrière du café. Je passais souvent par cette porte pour prendre un café avant mon service. J'ai été instantanément attiré par elle. Outre sa beauté qui était douce, chaleureuse et totalement féminine, elle était intelligente.
Puis Edwin Decker, il parlait d'elle en disant qu'elle avait un vibe hippie, etc. T'sais, c'est un peu intense, là. Selon Edwin, Michelle aurait passé la soirée du 13 avril avec lui, deux jours avant qu'elle soit retrouvée morte. Edwin a écrit un article sur elle dans lequel il racontait leur soirée.
Un article dans quel...
Sur un blog, genre.
Un blog en 1994?
Non, il l'a écrit en 2008.
Ça, ah, rare. Merci.
Michelle Von Emster n'était pas une amie proche ni une petite amie. C'était une jeune femme que j'appréciais depuis plusieurs mois, que j'ai finalement invitée à sortir et qui a accepté. Nous sommes allés à Whiston, un bar à Ocean Beach. Nous avons écouté des groupes et on a bu de l'alcool. Vers minuit, nous avons quitté le bar, acheté de la bière et des cigarettes. Nous sommes retournés chez moi et nous nous sommes assis sur le canapé où nous avons discuté et flirté toute la nuit. À un moment donné, elle m'a laissé lui enlever sa chemise pour que je puisse voir le grand tatouage de papillon sur son omoplate droite. Après quoi, nous nous sommes embrassés et caressés l'un l'autre jusqu'au petit matin.
Ooh.
J'étais fou de Michel et j'avais hâte de la revoir encore, encore et encore. Il y avait une connexion intellectuelle totale. J'ai ressenti une connexion émotionnelle aussi, du moins, de mon côté. Et nous avions aussi une connexion physique.
Ouais. C'est comme de mon côté. En tout cas, moi, je trouve ça un peu creep. Là. C'est un peu intense. Puis comme je disais, cet article-là, il a été son article sur son blog a été publié en 2008. Fait que c'est comme plusieurs années après. Ben pour une très courte relation là, qu'ils ont eue ensemble.
Ben, puis c'est pas une relation. Là.
Non. Ils ont flirté. Michelle aurait quitté l'appartement d'Edwin vers 5h du matin le 14 avril et les deux auraient échangé le numéro de téléphone. Edwin était très déçu de ne pas avoir reçu de coup de fil de Michelle dans les jours suivants. Puis, il a vu le même reportage que Denise, la patronne de Michelle. Edwin s'est tout de suite douté qu'il s'agissait de Michelle à cause du tatouage, mais il n'a pas contacté la police. Il a supposé que la police connaissait déjà l'identité de la victime et qu'on le gardait du public en attendant de prévenir la police, malgré que le reportage demandait littéralement l'aide du public pour identifier la victime.
Mm-hmm.
Edwin a ensuite composé et publié ce poème. Mais ça, c'est dans un petit ouvrage qu'il a publié ça, là, c'est pas sur Internet.
Ah, OK.
Il apparaît mentalement à l'atrocité de ce poème.
OK, fait que la première... OK, excuse, je mets les cartes.
Alors, dis-moi ça, explique-toi.
Je pensais le truc que Félix vient de lire, je pensais que c'était ça là, que tu disais ensuite il a publié ça.
Non, le truc avant que Félix a lu, ça c'est en 2008.
OK.
Mais là, il a publié, composé et publié un poème. Je vais vous le lire. Préparez-vous. C'est pas long. C'est 5 phrases. Le rapport indiquait qu'il y avait un tatouage, un papillon sur son épaule. Ce que je me suis rappelé cette nuit-là, sur mon canapé, quand moi, comme le requin, j'ai mordillé ses lèvres et lui enlevé sa chemise. C'est tellement déplacé! Franchement!
C'est tout?
C'est parce qu'il y a comme une nuance entre écrire ça dans ton journal intime puis le publier.
Oh oui.
On dirait que là, c'est là que ça devient bizarre.
Il était fier de ça. Puis il me semble, il l'a même remis dans l'article sur son blog en 2008. Fait que je sais pas exactement le timeline de quand il a publié ça, mais c'est juste... Puis moi, j'ai l'impression que le stalker de Michel, c'est Edwin. J'ai l'impression que c'est lui. Avec la porte du café, il passait toujours... Mais je... Non! Je ne les ai pas mentionnés nulle part, mais je me dis, tu sais, le gars, il arrêtait pas d'arrêter de venir la voir à son travail. Edwin faisait la même chose. Il arrêtait pas de passer au café avant son shift.
Ouais, mais là, elle avait dit aux gens qu'il y avait un gars qui la stalkait. Elle avait changé de shift.
Oui.
Elle serait pas allée chez le gars qui est stalker.
Mais je me dis, peut-être qu'elle dit, ah, peut-être que je devrais laisser une chance. C'est quelqu'un qui voit donc le bon dans le monde.
Ben non.
Ben,
si elle a changé de shift, elle avait peur. Je penserais vraiment pas qu'elle serait allée faire une soirée avec lui, à moins que. Lui, bullshit, puis qu'ils disent qu'il y a eu une soirée avec elle, puis qu'ils ont flirté, puis qu'il est parti à 5 heures. Parce qu'à date, c'est juste ses paroles.
Il y a ça aussi, c'est vrai.
Parce que ça pourrait être tout inventé.
Absolument. Puis tu sais, il dit, ah, ça faisait longtemps que je trippais sur elle, puis tout, puis elle a fini par accepter de venir avec moi. Mais je trouve que c'est bizarre.
OK.
Puis tu sais, écrire ça, tu la connaissais, faisait pas longtemps, puis au plus de 10 ans après, t'en parles encore. Tu sais, je comprends qu'il y a plusieurs personnes qui peuvent vivre le deuil de différentes manières. Puis c'est bien correct, là.
Puis ça peut être troublant, là, quelqu'un que tu vois du jour au lendemain manger par un requin. C'est quand même choquant, là.
Oui. Mais supposément manger par un requin, selon la théorie de l'autorité. Mais c'est ça. C'est quand même bizarre. C'est de mauvais goût, selon moi. Je comprends ce qu'elle a voulu faire avec son poème, là. Mais j'ai mordillé ses lèvres et lui enlevé sa chemise comme le requin.
Ouais.
Moi, ça m'offusque, là.
On dirait... Étrangement, ça m'offusque pas.
Ah.
je sais pas, là, tu sais, c'est une métaphore, là, je sais.
Parce que t'es pas proche, admettons, de la personne, là, mais mettons que ça aurait été, je sais pas, là.
Ouais, peut-être.
Mettons que ça aurait été ta sœur, là, que quelqu'un aurait écrit ça.
Ouais, c'est comme banalisé un peu.
Oui, ouais, mais tu sais, c'est comme... C'est tout de même déplacé.
Oui, oui.
C'est pas des métiers.
D'autant plus que c'est qui a tenu à publier ça en se disant ça a une valeur ajoutée. Là,
oui, puis c'est surtout que le cas est quand même connu, puis que tu prends la peine de décrire la soirée que tu as passée avec. Tu aurais pu dire on a échangé, c'était bien. Non, non, non. Elle m'a permis d'enlever sa chemise pendant qu'on était dans mon sofa. On s'est caressé tout l'un l'autre toute la nuit.
Non.
C'est aucunement pertinent. Genre, tiens ton bout, c'est une personne que je tenais. Genre, je sais pas, je le file pas, ce gars-là.
Non, t'as raison.
Mais peut-être que si jamais il est vraiment rien arrivé, puis il avait vraiment. Il était fou d'elle, là. Ben, je comprends que ça l'a affecté même plusieurs années plus tard, mais c'est quand même malaisant. Mais, en 2008, la même année que la publication de son article, Edwin a fait une demande au bureau du médecin légiste pour réévaluer le cas de Michel. Et dans son article, Edwin nie la théorie du requin. Il a même contacté des experts, dont Ralph Collier. Fait que si Edwin avait tué Michel, il se serait fermé et puis il n'aurait pas voulu que ce soit réexaminé. Ben là. Parce que faire passer un meurtre pour une attaque de requin, c'est quand même efficace.
Mais moi, j'ai une autre théorie là-dessus.
Vas-y donc.
Si c'est un creep, kind of stalker, ben peut-être que c'est un peu comme Rocco Magnotta. Il veut que les gens se posent des questions. Mm. Il veut que, ça, que l'attention se retourne contre lui.
Une espèce de narcissique.
Il veut, semer le doute, puis avoir, je sais pas.
Peut-être aussi, parce que ce serait pas inconnu que des gens qui ont commis des meurtres se mêlent pas de l'enquête. Ce serait pas quelque chose qui est jamais arrivé, là.
Souvent, je pense que si... tu tues puis que c'était un peu un accident, là, ça doit être ta hantise puis tu veux vraiment pas que personne sache. Mais si tu tues par psychopathie, ça se dit-tu? Ou sûrement pas du tout, parce que t'es un creep puis que t'es crazy, peut-être que là, le petit jeu de genre, j'ai quand même envie de me faire pogner ou juste de qu'ils se rendent compte que c'est un meurtre, mais qu'ils sachent pas c'est qui ou qu'ils puissent pas me pincer.
Oui, puis son nom est aussi mentionné dans les trucs, fait peut-être aussi sa manière de clamer son innocence. Ah, mais je me mêle, là, de l'enquête, là. Fait que non, c'est pas moi, là. Considérez-moi plus comme un suspect parce que pour les internautes, pour la place publique.
Ouais.
C'était sa manière à lui de le faire.
Mais en même temps, j'ai vraiment l'air d'une grosse couille si je dis ça, puis qu'il est vraiment pas du tout responsable de ça, là.
Mais c'est ça, on le sait pas. Ça reste un suspect.
C'est des grosses accusations.
Oui. Avez-vous des choses à dire, cette théorie-là, avant que je passe à la prochaine étape?
Ben, je dis juste que c'est louche, que c'est tout possible. Mais je sais pas.
Toi, Félix?
Non, aucun commentaire. J'ai bien pris note de ceci, mais...
OK.
Moi, je suis pas convaincu que c'est lui.
OK.
C'est pas flagrant pour moi, là. Je suis pas comme... Moi...
Moi non plus,
c'est
pas
lui.
De preuve.
C'est vraiment... C'est sûr que c'est Edwin. Ouais.
Il est louche, mais il y a aucune preuve de rien.
Moi, ouais, c'est ça. C'est quelqu'un comme un autre.
Ouais, je comprends. Fait que je vais énumérer des petites théories avant d'aller à la dernière grosse théorie. Fait que je vous les liste, OK? Michel aurait fait une baignade, elle aurait été prise dans un rapide et son corps se serait violemment heurté contre les rochers. C'est ainsi qu'elle aurait subi la plupart de ses blessures. Plus tard, son corps sans vie aurait servi à alimenter des requins bleus après avoir été submergé dans l'océan.
Bleu ou blanc?
Bleu, des petits requins bleus.
Okay, moi, je pense que c'est ça.
Des petits requins bleus?
Ouais.
Ben, ça peut pas être des petits requins bleus qu'on porte avec sa jambe, là.
Bon, ben là, pourquoi tu me dis d'abord?
Ah, mais OK, mais tu penses que ce serait ça, théorie? Mais attends,
ouais,
là. Et où sa jambe, pareil?
Ben là, elle peut flotter, elle peut être loin, là. C'est l'océan Pacifique.
Y a-tu des rapides dans ce coin-là? Moi, c'est plus ça, là. Je sais pas. Là.
Faut que
ça
prend une place pour surfer.
Ça
ben
prend
justement,
des grosses.
Y a de la vague, là.
Mais moi, dans ma tête, je me dis, si son corps s'est échoué, sa jambe devait être pas loin. Mais sa jambe, il n'a jamais parlé de sa jambe.
Manger.
En tout cas, deuxième petite théorie. Michel est décédé à la suite d'une chute depuis les falaises de Sunset Cliffs. La région est connue pour ses falaises qui se détériorent et des décès antérieurs se sont produits lorsque des victimes sont tombées des falaises. Son cou brisé et les ecchymoses pourraient être expliqués par cette théorie, mais pas sa blessure à la jambe. Troisième petite théorie. Michel serait allé à une soirée où elle aurait fait une overdose. Bien que sa famille et ses amis nient qu'elle ait pris des substances parce que ses problèmes de consommation étaient sous contrôle, des gens présents à la soirée auraient jeté son corps en bas de la falaise de Sunset Cliffs.
Ben là, franchement, là, non. Parce que là, si quelqu'un fait un overdose, t'es pas responsable.
Mm. Mais mettons que les gens autour étaient aussi en état second.
Bon, mais cache la dope, appelle la police. Hein? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ouais, évidemment. Toi, tu aurais que ça, les problèmes, toi?
Ben là.
OK, avant-dernière petite théorie. Michel se serait fait frapper par une voiture et elle serait tombée en bas des falaises. C'est vraiment partie des théories. Il y a vraiment des gens qui croient ça. Dernière, Michel a pris du LSD et est allé nager puis s'est noyé.
Ouais.
Non, je pense que c'est des théories à deux scènes.
Ben moi, je pense que ça peut tout être des petits morceaux de ça.
Ouais. Peut-être qu'elle a pris du LSD, elle a presque fait une overdose, elle a quitté.
Mm-hmm.
Elle a escaladé une falaise, mais elle s'est fait frapper, elle a tombé, elle a déboulé. Elle est tombée jusque dans l'eau, la face dans le sable. Finalement, il y a des petits requins qui l'ont traînée, puis il y en a un gros blanc qui l'a récupéré. Puis...
C'est ce que je veux dire, il y a autant de théories qu'il y a de gens sur la Terre.
Ça pourrait être mille affaires, mais je pense qu'on va aller vers ta grosse théorie, puis ça sera la bonne.
On t'écoute.
Il y a une autre théorie que j'ai trouvée sur Reddit, que Michel aurait pu être attaqué par un crocodile. Mais attendez, partez pas en folie. Jugez-moi pas de suite. De ce que j'ai lu, les crocodiles sont des nageurs incroyables et peuvent parcourir des longues distances en mer, parfois allant jusqu'à 900 km. C'est fou, hein? Mais moi, dans ma tête, ça fait juste patauger un brin, ça. Mais ils peuvent aller 900 km. Les crocodiles auraient aussi une force apparente à celle des requins. Puis j'ai trouvé un article dans lequel un expert disait que les crocodiles vont, s'accrocher à leur proie.
Ils vont la noyer.
Ils vont la noyer, c'est ça. Puis, ils vont la démembrer en morceaux jusqu'à ce qu'elle ait la taille d'une bouchée, genre les bouchées qu'ils vont prendre.
Ouais.
La méthode utilisée par les crocodiles pour démembrer leur proie est en la faisant rouler sous l'eau, en la secouant violemment sur les rochers, par exemple, jusqu'à ce que les os soient fracturés.
Ben voyons donc.
C'est brutal.
Comme nous quand on tapote le poulet, là.
Quoi?
Est-ce qu'il y en a des crocodiles dans cette région-là?
Ben, écoute, je penserais pas.
Mais non.
Mais c'est le fait qu'ils ont... Je penserais pas, là, mais c'est le fait que un crocodile aurait parcouru 900 km, puis il aurait... Mais normalement, l'affaire qui ne marche pas avec ça, c'est que ce comportement alimentaire implique souvent deux crocodiles. Pendant qu'un fait ça, l'autre mange, puis c'est switch.
Putain, s'il y en a un, pourquoi il n'y en aurait pas deux?
T'as bien raison.
Mais moi, c'est juste, s'il n'y en a pas dans cette section-là de la mer, ben je comprends.
Mais 900 km, tu peux venir de loin.
Je sais, mais à un moment donné, si c'est pas ces eaux-là... Son type d'eau, ou c'est trop froid, c'est trop salé, peu importe, là, il viendra pas.
Ouais, je sais pas.
Je pense que c'est plus dans des soins en plus. Là.
Mais ouais, c'est ce que j'imaginais, mais apparemment, il y a des crocodiles de mer, il y a plusieurs types de crocodiles.
Oui, c'est vrai.
Crocodile dodo, crocodile. Passionnant!
Pourquoi les chercheurs n'ont pas tout de suite sorti ça, d'abord, s'il y a un doute sur Reddit qui dit ça?
Ben, parce que eux, leur carrière, c'est les requins. Fait qu'il y a personne qui a donné d'autres théories. C'est ça qu'ils disaient tantôt. Il n'a pas offert d'autres théories. On se dit, c'est pas possible sans requin, merci, bonsoir. Anyway, c'était close, c'était fait, c'était salé, le temps était sur le dossier, tu sais.
Ouais, ça n'a pas été assez investigué.
Oh, définitivement. Ça, c'est sûr. C'est sûr que ça peut arriver, là.
Il y a sûrement quelqu'un qui crie, là, dans son salon en train de dire pente d'un culte.
Sûrement. Je vous comprends.
On va s'arrêter.
Ouais. Fait que je vais me lancer à la dernière théorie. Pour introduire cette théorie, je vais vous parler de deux mises à jour sur la page Wikipédia de Michel. Le podcast Shark Files a fait une update sur leur site suite à leur épisode sur le cas de Michel Van Hemster. L'autre a raconté qu'après avoir consulté la page Wikipédia de Michel, il a remarqué un ajout. Cause du décès connu, détail non divulgué au public. Un commentaire a été laissé sur une publication Reddit sur le cas de Michel. Ce commentaire parle également de ce même ajout sur la page Wikipédia. L'utilisateur ou l'utilisatrice, qui portait le surnom Salamander Queen, a ensuite écrit qu'il ou elle avait fouillé dans les historiques de modification de la page. Il ou elle aurait vu qu'une photo aurait été retirée de la page en raison de violation des droits d'auteur. L'utilisateur ou l'utilisatrice a aussi remarqué une note sur les modifications faites, détails mis à jour sur le décès de ma sœur, aucun mystère sur celui-ci, écrit par Colon TM. Qui est Colon TM? Contre tout doute, ce serait bel et bien la sœur de Michel Van Hemster, Teresa. En faisant quelques recherches, on peut trouver facilement son compte sur Medium. Medium, c'est une plateforme sur laquelle des gens peuvent écrire et lire des articles sur n'importe quel sujet. En 2019, Teresa a publié un article sur le site Medium. Cet article offre une tonne d'informations qui n'étaient pas connues au public auparavant. Le titre de l'article est le suivant. L'Église catholique a violé ma famille.
Oh my!
Je vous avertis, cet article-là, on va le lire une bonne partie, là. Ça mentionne des choses assez graphiques puis va contenir des mentions d'agression sexuelle sur des mineurs. C'est assez troublant. Je vais mettre un timestamp si jamais vous voulez pas l'entendre, là, ce qui s'est dit dans cet article-là, mais je te laisse aller, Kat.
En 1982, mes deux sœurs aînées et une amie proche travaillaient au presbytère Saint-Charles de la paisible ville de San Carlos, en Californie. Le presbytère fait office de bureau pour la paroisse qui se compose d'une grande congrégation et d'une école primaire et secondaire. Ce presbytère sert aussi de maison pour les deux ou trois prêtres qui travaillaient en résidence à l'église. L'un de ces prêtres était le père Greg Ingalls. Ce que ma famille ne savait pas à l'époque, c'est que le père Ingalls était un pédophile et un violeur. Alors qu'il fréquentait une école catholique, Ingalls a sodomisé au moins un élève de sexe masculin et a entretenu une histoire d'amour unilatérale et abusive avec une élève complétée par des notes d'amour, une masturbation forcée et une fellation. C'est intense, là. C'est intense.
Ouais.
Je dis pas ces mots-là.
C'est des détails quand même assez précis, hein?
Ouais, vraiment. Je pense qu'il est facile de supposer qu'il a eu davantage de victimes à cette époque, au milieu des années 1970. En 1982, le charmant et charismatique Ingalls était un récidiviste impuni. Il a passé de brèves périodes dans les paroisses précédentes avant de venir à Saint-Charles, ce qui est cohérent avec le comportement connu de l'Église catholique, déplacer des prêtres accusés d'inconduite.
C'est vrai.
Au cours de l'année scolaire 1982 et 1983, mes sœurs Michelle et Kirsten, ainsi qu'une autre jeune adolescente que je surnommerai Anna, ont travaillé au presbytère de l'Église. Le père Ingalls a noué des relations avec chacune des filles, manifestant ce que nous reconnaissons désormais comme des comportements abusifs. Kirsten a raconté des incidents où il lui frottait le dos, lui donnait des câlins prolongés, des massages et d'autres incidents où il s'engageait dans d'autres comportements tactiles qui la mettaient profondément mal à l'aise. Quand on lui a demandé plus tard, Anna a confirmé avoir été confrontée à des comportements similaires qui la rendaient mal à l'aise. Avec Michel, le père Ingalls, ses abus allaient encore plus loin. Il lui donnait de longs baisers qu'elle tentait de repousser physiquement. C'est grotesque. Pour Michel, le comportement d'Ingalls a abouti en un viol dans notre maison familiale. En 1982, il est venu à la maison un après-midi alors que Michel était présente. Eric, qui a été son petit ami plus tard, a partagé le récit de Michel sur l'expérience au cours d'une enquête. Elle a dit qu'il s'était imposé sur elle, qu'il était vraiment grand et qu'elle ne pouvait pas bouger, qu'elle se sentait vraiment impuissante, qu'il a enlevé ses vêtements et qu'il s'est forcé à entrer en elle. Elle m'a dit qu'elle a vu noir et que c'était fini. Lorsque mes parents ont interrogé Kirsten et Anna sur leurs expériences, les filles ont répondu que le père Ingalls les touchait. Mes parents ont fait part de leurs inquiétudes à Ingalls. Ingalls, conforme au pédophile expérimenté, a utilisé son charme et son charisme pour convaincre mes parents que Michel interprétait mal la situation. Il a dit qu'elle s'assoyait parfois sur ses genoux et que c'était peut-être une erreur de sa part. Rassurés, mes parents ont laissé tomber l'affaire.
C'est rageant.
Oui, quand même. Pour Michel, le cauchemar n'était pas terminé. Alors que les trois filles continuaient à travailler au presbytère, Michel a dû faire face à son violeur encore et encore. Même si nous pensons que le viol était un événement unique, il était plus que suffisant pour faire dérailler la vie de Michel. Elle se sentait trahie par nos parents pour avoir pris la parole d'Ingalls plutôt que la sienne et elle se disputait constamment avec eux à la maison. Après son déménagement à San Diego, Michel a réussi à maintenir deux emplois, finançant sa dépendance à l'héroïne et fréquentant des personnes peu recommandables. Alors qu'elle travaillait dans un café, elle a été victime d'un vol à main armée et nous suspectons qu'elle a été agressée sexuellement à nouveau. Durant une journée claire et ensoleillée d'avril 1994, mon oncle a frappé à la porte pour dire à mes parents que le corps de Michel avait été retrouvé flottant dans l'océan Pacifique. Bien que dévastés par sa mort, nous étions heureux de savoir que Michel avait enfin trouvé la paix. La paix qui lui a été volée à l'âge de 15 ans par le père Ingalls. Je trouve la dernière phrase quand même étrange.
Ouais, moi aussi.
Soulagé, là. Drôle de terme, quand même. Mais là, on vient d'apprendre...
Elle a eu des épreuves difficiles, mais tu sais...
On vient d'apprendre qu'elle était héroïnomane
ouais,
aussi.
Ouais, on savait oui. pas.
C'est ça.
Elle a vraiment eu une vie extrêmement pas facile. Puis c'est vrai, elle a eu la leucémie en plus. Il y a vraiment beaucoup de choses.
Oui, dans sa courte vie, là, elle a vécu tellement de choses. Elle a été abusée sexuellement quand elle était mineure. Elle a surmonté la leucémie après avoir passé à travers des traitements insupportables. Elle a eu des problèmes de dépendance à des drogues comme l'héroïne.
L'héroïne,
c'est terrible. Gigantesque. Elle a été victime d'un vol à main armée et possiblement d'un viol, encore une fois. Puis elle s'est fait harceler par un homme au point de devoir changer d'emploi. C'est terrible ce qu'elle a vécu, là.
Pis, on dirait que là, je comprends aussi pourquoi elle est partie aussi jeune pour aller à San Diego, parce que quand même, elle se sentait trahie par sa famille.
Oui, puis c'est pour ça aussi qu'elle s'est rebellée contre eux, mm-hmm. puis qu'elle a lâché ses études, puis il y a eu le cancer, puis tout. Le cancer, ça l'a permis un peu de se rapprocher de sa mère, parce que sa mère mm-hmm. allait avec elle à tous les traitements, là. Mais je pense que ça n'a pas été assez de la trahison de vous ne nous avez pas cru, puis j'ai été confrontée à personne qui m'a violée, là. C'est plate parce que ses sœurs, Thérèse, elle savait pas ça jusqu'à plus tard. Il y avait personne quasiment de la famille qui était au courant de tout ce qui s'était passé. Puis la sœur de Michel, Thérèse, elle a aussi commenté sur un site de forum en 2021. « Bonjour, ici la sœur de Michel. Le public n'a pas tous les faits et c'est une décision prise par la famille. Michel n'a pas été assassiné. Il n'y a pas de mystère autour de sa mort. Merci, Thérèse. »
Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Si on lit entre les lignes, selon moi, si c'est pas un meurtre, si c'est pas le requin selon les experts, qu'est-ce qui s'est passé? Mais je pense que...
Elle se serait suicidée.
Je pense que c'est ça. Fait que je vais vous en parler
un
peu.
Mais toi, tu penses que c'est ça, vraiment?
Je pense... J'ai de la misère...
Joanie Castillou pense que c'est ça ou pas plus qu'un autre
terme? Joanie est pas sûre. Joanie Castillou est pas sûre.
Mais se suicider, comment tu fais pour te casser le cou, les côtes, le bassin?
Elle aurait pu vraiment tomber en bas de la falaise.
Se lancer en bas de la falaise.
Se lancer en bas de la falaise.
OK. Fait que la falaise, c'est possible.
Oui, parce que, tu sais, il y a plein d'avertissements à la falaise. Là. Je mets
mais
des photos.
Tu
t'arraches
pas une jambe en tombant en bas d'une falaise.
C'est ça qui, quand même, bug. Puis les vêtements, les hosties de vêtements, c'est ça qui marche pas. La théorie du suicide fait quand même du sens considérant tout ce qu'elle a vécu. Sauf que Michel a peut-être vaincu un cancer, puis ses proches ont dit qu'elle avait acquis une nouvelle appréciation de la vie. Ben ça reste ouais. qu'on sait jamais qu'est-ce qui se passe en tête de quelqu'un. Puis ça, on commencera pas à prédire, mais à supposer comment elle se sentait, malgré tout, là, tout ce qu'elle avait vécu.
Mm-hmm.
Mais si on se fait aux preuves, ça explique pourquoi son sac à main a été retrouvé à 800 mètres de son corps sur la plage. Que ses vêtements qu'elle portait n'ont jamais été retrouvés. Puis que la sacoche n'a jamais été fouillée. Ça marche pas. Fait que je sais pas.
Ouais, moi, c'est pas non plus ma théorie. Je sais pas. Je trouve ça juste extrêmement triste et troublant ce que je viens de lire.
Ouais. Mais en même temps, si sa sœur a se tue sur plusieurs plateformes à dire il n'y a pas de mystère sur la mort de ma sœur, il n'y a pas d'informations que vous ne savez pas, c'est pas un meurtre, à un moment donné, elle sait pareil, là, c'est ça l'affaire.
Mais dans le fond, elle pense qu'elle s'est suicidée.
Mais elle a dit qu'il y a des informations qui n'ont pas été partagées de la police au public. Okay. Des informations qui ont été demandées de ne pas être partagées. Quoi exactement? Tu as des choses qui expliqueraient en détail qu'elle s'est suicidée. Parce qu'il y a beaucoup de familles, considérant, mettons, que sa famille était ultra-croyante,
ouais.
ils sont sûrement pas fiers, puis, tu sais, il n'y a pas de place à ça, là, mais ils sont sûrement pas fiers qu'elle aurait mis fin à ses jours.
Ouais, c'est mal vu.
Fait que c'est, hein. ouais, c'est comme une honte, c'est un échec. C'est, en tout cas, je ne prononçais pas là-dessus, mais pour des gens, c'est pas tout le monde, là, mais il y a certains gens qui sont ultra-croyants qui peuvent croire ça. Que ça,
ben,
ça se fait
c'est
pas.
C'est vrai, c'est vrai.
Fait que je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas dit, ben, on va demander. On ne va pas dire plus publiquement c'est un suicide. On ne va pas demander de changer la cause du décès pour suicide. Parce qu'en bout de ligne, la cause de la mort, ça reste qu'elle s'est noyée et qu'elle s'est vidée de son sang pareil. Elle n'est pas morte de sa chute.
C'est tragique que tu réitères ce point-là, c'est clair.
Ouais.
Oh mon Dieu, tellement de possibilités, mais je sais, c'est vrai que c'est troublant que sa sœur a dit qu'il n'y a pas de doute. Là. Moi, on ne sait pas. Mais on dirait ouais. que...
Dans tous les cas, c'est une des morts les plus terribles que j'ai jamais entendues de ma vie.
Ouais, vraiment.
Tu sais qu'elle...
Mais en fait, on le sait pas.
Non, 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 mais reste qu'elle s'est quand même fait casser le cou. Elle s'est quand même fait casser le bassin quasiment, les côtes. Elle était complètement incapacitée. Puis là, elle se ramasse au fond de l'océan. Elle se noie en avalant une grosse gorgée de sable. Elle en avait dans le nez, elle en avait dans la gorge.
C'est pas une mort qui est paisible, disons.
Ouais, c'est ça. C'est quand même vraiment violent comme mort.
Mm-hmm.
Malgré que c'est peut-être pas la violence de quelqu'un d'autre. Ni un requin, ni une...
ouais.
les deux suspects qu'on a énumérés.
Mais peut-être pas de coupable, c'est ça
c'est
que
ça,
tu
ouais.
nous dis.
Ça peut pas être une histoire de drogue, finalement?
Mais elle n'en consommait plus.
Ouais, mais...
Depuis le cancer. Hey, mais peut-être qu'elle en a pris parce que...
Ça peut pas être comme on disait un
quelle
peu
addiction,
au début.
C'est facile de retomber.
Oui, oui.
C'est ça. Fait que ça pourrait pas être ça.
Ça pourrait.
Ça pourrait.
T'sais...
Ça revient à... Hey,
ça pourrait aussi que c'est une overdose, sa sœur avait pas de dire.
Mm-hmm. Parce que ça aussi,
c'est pas une
mais
fierté
ça, c'est
en tant que telle.
C'est bizarre, là, une overdose, puis la personne va te porter dans l'eau après.
Mais si maintenant avec une overdose,
pas
à tomber.
Une overdose, elle serait déjà morte, elle aurait pas, ça aurait pas été la noyade qui aurait été la cause du décès.
Ouais, peut-être full défoncé, elle s'en va au bord de l'eau, elle commence à genre, se baigner parce que c'est quelque chose qu'elle faisait. Puis là, ben, elle commence tranquillement à jeter. Je veux dire, c'est une overdose, là. Elle pourrait être sur le bord de l'eau, puis avaler ben du sable, puis that's it. Là.
Ouais.
C'est juste ça explique encore pas tout le fracassage de son corps. Mais là, ça revient qu'elle pourrait faire une overdose au bord du cap, tomber dans le cap, se avaler de l'eau, blablabla. Je veux dire, ça...
Mais c'est vraiment terrible. Comme mort, ça, c'est certain. Puis tout ce qu'elle a vécu, mon Dieu, je peux même pas m'imaginer, là. À 25 ans, t'as tout ce bagage-là, là.
Je trouve ça terrible.
Elle a vécu le cancer à 23 ans. La leucémie.
C'est fou, là.
Mmh. Deux viols, possiblement. Un vol à main armée, ça trouble. Ah!
C'est choquant. Puis tu dis, possiblement, deux fois qu'elle s'est faite violer, là. Quand elle a travaillé au presbytère, c'est peut-être arrivé à répétition.
Oui, ça. Mettons par deux personnes, plutôt, je devrais dire.
Je suis choquée.
Ouais.
Le prêtre, trou de cul.
Non, mais attends, là. Je vais vous parler du prêtre, là.
Crotté. Ah, t'as pas fini?
Non. Mais la théorie est close, là. Mais je vais vous parler de qu'est-ce qui est arrivé avec le prêtre après. Dans l'article de Teresa, elle relate qu'après la mort de Michel, ses parents ont été confrontés à tout ce que le prêtre Ingalls lui avait fait subir 10 ans avant sa mort. C'est Coco, la colocataire de Michel, qui leur a tout raconté par après. Les parents de Michel étaient profondément perturbés par cette révélation parce qu'ils ont bien vu que ce qu'ils disaient, c'était vrai, les filles, plusieurs années plus tôt. Puisque l'Église était le fondement de leur identité et de leur style de vie, ils ont décidé de suivre les principes catholiques pour traiter l'affaire et ils ont contacté l'abbé John Ryan pour obtenir de l'aide. Seulement deux personnes ont été interrogées dans cette affaire, les ex-copains de Michel, Bob et Eric. Aucun effort n'a été fait pour contacter les autres personnes qui travaillaient au presbytère à l'époque, ni pour localiser les autres victimes comme Kirsten puis Anna. Suite à une évaluation psychiatrique, il a été déterminé qu'Ingalls ne correspondait pas au profil d'un pédophile. L'Église a clos l'enquête pour insuffisance de preuves. C'est pas fini. C'est vraiment pas fini. Dans une tournure ironique et dégoûtante, Ingalls a été promu en tant que spécialiste des enquêtes sur les abus sexuels au sein de la communauté catholique et des poursuites ecclésiastiques.
Corruption totale.
Ouais. Même après avoir été accusé d'abus sexuels lui-même, il s'est ramassé spécialiste des enquêtes sur les abus sexuels.
Ça veut juste dire on te met là, toi, tu vas gérer toutes les petits crottés qui font ça, puis on n'entendra pas parler.
C'est un peu ça. C'est de la pure corruption.
C'est...
Des nouvelles accusations ont été portées contre Ingalls en 1996 pour des actes remontant en 1970. À ce moment-là, en 1996, l'Église prétendait avoir pris connaissance pour la première fois des actes répréhensibles d'Ingalls, soit 2 ans après que les parents de Michel avaient reporté son histoire. Mais on dit que c'est la première fois qu'on entendait parler qu'il était arrivé quelque chose. Encore une fois, ces accusations ont été ignorées et l'Église a nommé Ingalls prêtre suppléant dans une autre paroisse en 2002, puis il y avait une école sur place. Toutes les accusations ont été abandonnées. Ingalls a continué à exercer un rôle juridique pour l'Église jusqu'à ce qu'il soit finalement laïcisé en 2015 après une autre accusation.
Il était temps.
Fait qu'il a finalement...
Il y a eu 20 ans.
Il n'était pas trop tôt.
Ouais, mais
il y a eu 20 ans.
Puis c'est ça, là. Après ça, il est ressorti, là. Tu sais, il a été laïcisé. Il est-tu allé en prison?
Non.
C'est ça.
Il s'est ramassé dans une petite place de prêtre, là, mais parce qu'il n'y avait pas d'emploi, il n'y avait pas d'études, mettons, pour le monde extérieur. Là, tu sais, il était prêtre, Chris, fait que c'est ça, il s'est ramassé dans une place avec d'autres prêtres.
Je trouve ça tellement laïcisé. Weird, cette affaire-là de prêtre pédophile. Je comprends pas. C'est-tu parce que ils sont, à cause de leur vœu de chasteté, ils se revirent pour avoir du sexe vers des personnes vulnérables?
Je penserais pas.
Ou sont carrément... Je veux dire, je trouverais ça quand même embêtant que, par hasard, tous les prêtres soient vraiment pédophiles dans le sens où attirés par les enfants.
Il y a certains organismes que leur but, c'est de lutter contre la pédophilie, puis il y a beaucoup de pédophiles qui se ramassent là-bas. Parce qu'ils savent que c'est facile, parce que t'es en contact direct avec des ressources, puis tu peux te backer, tu comprends? Fait que dans ma tête, c'est la même chose pour l'Église. Ils savent qu'ils sont protégés, fait qu'ils se ramassent là-bas. Je pense pas que c'est un besoin de sexe. Puis ouais, non, je pense pas que ça a pas rapport avec ça, là.
OK, moi, j'aurais cru que ça aurait plus peut-être été ça.
Non. Non, pas mal sûr que non. Mais c'est aussi le fait que c'est protégé, puis qu'en ce moment, il y a beaucoup d'histoires qui sortent, fait qu'on s'imagine qu'ils sont toutes pédophiles. Mais là, elle avait écrit un autre bout dans son article. Teresa, je vais vous le lire. En 1996, l'État de la Californie a adopté une loi obligeant les prêtres à signaler les abus. L'Église n'a pas informé ses prêtres de cette loi avant 2002, leur donnant accès à 6 autres années de secret. Entre 2002 et 2014, le Vatican a signalé que 3420 prêtres avaient été poursuivis à travers le monde. Seulement 848 ont été reconnus coupables et laïcisés. Cela représente un taux de condamnation inférieur à 25%.
C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup.
C'est que...
Mais ils vivent dans le péché, là. Ils vont aller en enfer.
J'espère. Si l'enfer existe, juste pour vous autres.
Bye!
Fait que j'ai fini mes théories et tout. Avez-vous d'autres choses à dire?
Non, moi, j'ai rien à dire. Je suis choquée par la fin de l'épisode.
C'est caché derrière un paywall, cet article-là. Il fallait que je paye pour... Puis, c'est ça.
L'affaire du prêtre?
Oui.
T'es allé payer juste pour savoir qu'est-ce qui se passait avec lui?
Ouais.
Le vieux cochon.
Mais toute l'histoire de Michel, mettons, tout ce qu'elle racontait dedans, là, c'était pas juste l'histoire du prêtre.
OK, OK, j'étais mais... comme... tu voulais y faire un vrai procès, mon homme.
Ah ouais, ouais. Mais il y a un homme d'autres prêtres aussi qui ont eu des comportements déplacés. Mais déplacés, on est plus que déplacés que tabarnak, on est dans l'inconduite sexuelle. Mais un homme plein, son article est vraiment détaillé, puis c'est vraiment bien fait, puis... Je peux laisser un lien si jamais vous voulez, mais il faut payer un petit montant. Que je me souviens plus. Pour s'abonner dans le format médium. Mais ouais, c'est ça. Le 15 avril 2024 marque le 30e anniversaire du décès de Michel Van Heemster. Le médecin légiste, Brian Blackburn, est décédé en octobre 2012. Le verdict officiel déclare que la mort de Michel était accidentelle, survenue suite à une attaque de grands requins blancs. Malgré plusieurs demandes de réouverture du dossier, les autorités ont toujours maintenu cette position et aucune enquête officielle pour homicide n'a été lancée. En raison de preuves contradictoires, l'affaire de Michel Van Heemster a été réexaminée en 2008. Cette fois-ci, l'examen médico-légal mené par Glenn Wagner a conclu qu'un ou plusieurs requins avaient attaqué le corps de Michel après sa mort. Les responsables des répertoires d'attaque de requins ont refusé que Michel soit ajouté dans la liste des victimes. Et voilà. Puis sa voisine a pris son chat. Celle qui a adopté son chat.
Aïe, aïe, aïe.
C'était le cas de Michel Van Heemster.
Pauvre Michel.
Ouais.
On ne saura jamais.
Ouais. Mais la famille veut ça.
Fait ouais.
C'est correct, ça leur appartient quand même. Mais c'est d'une tristesse.
Inouïe.
Ouais.
Donc, le segment disparition de la semaine. Le service de police de la Ville de Québec sollicite l'aide de la population et des médias afin de localiser Jesse Duchesneau, 19 ans. Monsieur Duchesneau a été vu pour la dernière fois le 4 novembre 2023 vers 3h AM sur la rue Saint-Joseph-S. 6 pieds 1, 170 livres, cheveux bruns, yeux bruns, t-shirt noir, chemise à carreaux noir et blanc, manteau brun avec mouton au niveau du col et des manches, jeans bleu pâle avec gros trous sur les genoux, casquette noire avec logo blanc. Il pourrait aussi se trouver dans la région de la Gaspésie. Si vous apercevez cette personne, composez le 911 pour une intervention immédiate.
Jesse Duchesneau, c'est un gars de mon village.
Ouais.
Ça serait bien le fun qu'on le retrouve. Il y a eu plusieurs mises à jour par rapport à sa disparition. Là. Il aurait été filmé par des caméras de surveillance. Il aurait son téléphone cellulaire. Je pense qu'il serait fait trouver dans un stationnement souterrain.
Ben, ils disent qu'il aurait dormi dans un stationnement souterrain près de la rue du Pont.
Ouais.
Vers 4 heures. Et il est ressorti vers 4h40 du matin puis il est marché vers la direction de la piste cyclable le long de la rivière Saint-Charles.
Oui, exactement. Il y avait aussi une histoire comme quoi des gens l'auraient vu sur la Snap Map à la gare du Palais à Québec. Mais pourtant, je sais pas si c'est vrai, là, mais quand il a disparu, c'était le détail que tout le monde partageait. Possiblement que ça a été démenti par après parce que son cellulaire a été retrouvé dans le stationnement.
Ouais.
Ouais. Fait que... On va mettre des photos de Jesse si jamais, puis des liens aussi si jamais vous aimeriez vous référer.
Merci.
Et c'est tout pour aujourd'hui. On se voit la semaine prochaine.
Merci tout le monde.
Bye! Bye.